Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du jeudi 3 septembre 2015. Morgane Guiriac et Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Des dizaines de personnes massacrées cette semaine par Boko Haram dans l'état de Borno.
Et 7 djihadistes maliens présumés ont récemment été arrêtés en Côte d'Ivoire et ont été extradés vers leur pays d'origine.
En Guinée, la Cour constitutionnelle devrait confirmer ce jeudi les candidatures à la présidentielle du 11 octobre.
Vu qu'aucune plainte n'a été déposée jusqu'à ce stade, la priorité est très forte que les 8 candidatures soient maintenues à date.
Au Yémen, au moins 20 personnes ont été tuées dans 2 attentats suicides contre une mosquée chiite à Sanaa, la capitale.
Accord sur le programme nucléaire iranien, Barack Obama a désormais suffisamment de soutien au Congrès pour surmonter tout blocage par la majorité républicaine.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Massacre dans le nord-est du Nigeria. Des témoins cités par l'AFP affirment que les djihadistes de Boko Haram ont massacré des dizaines d'habitants à Fataoué, un village de l'état de Borno. L'attaque aurait eu lieu lundi matin. Une centaine d'islamistes auraient rassemblé les villageois, égorgé les hommes, avant de poursuivre et massacrer la foule horrifiée fuyant la scène. Du haut de leurs chevaux, ils auraient notamment piétiné leurs victimes à mort. Ils en ont tué plusieurs dizaines, mais je ne peux pas donner un chiffre précis, car il faut encore que nous y revenions et comptions les morts, a déclaré un témoin réfugié dans l'état voisin de l'Adamawa.
Et 7 djihadistes maliens présumés ont récemment été arrêtés en Côte d'Ivoire et été extradés vers leur pays d'origine. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources de sécurité ivoirienne et malienne. Les suspects auraient reconnu avoir participé à des attaques sur le sol malien.
En Guinée, la Cour constitutionnelle devrait confirmer ce jeudi la candidature à la présidentielle du 11 octobre de 8 leaders politiques, dont le président sortant, Alpha Condé, et le chef de file de l'opposition, Seydou Alain Diallo. Jusqu'à mercredi soir, aucune objection n'avait été formulée suite à l'affichage des noms retenus par la Cour, qui a le dernier mot dans le cadre de ces élections. Le juriste et analyste politique Mohamed Camara nous explique les différentes étapes du processus.
Le processus, c'est que les candidats ont 40 jours au minimum, 60 jours au maximum pour présenter des actes de candidature. Et la Cour constitutionnelle dispose de 24 heures après pour non seulement faire un affichage public pour recueillir un certain nombre d'avis de la population, mais aussi voir s'il n'y a pas d'avis contradictoire ou que les dossiers soient au grand complet. Vu qu'aucune plainte n'a été déposée jusqu'à ce stade, la probabilité est très forte que les 8 candidatures soient maintenues à date pour que la procédure soit respectée. Et après maintenant, le décret présidentiel doit intervenir pour convoquer le corps électoral 38 jours avant le jour J, contrairement à l'erreur qui a été faite pour convoquer le corps électoral alors qu'on était en dépassement de 38 jours déjà. Donc après cela, vers le 10 septembre, le président de la République devrait intervenir encore en prenant cette fois-ci un autre décret pour ouvrir officiellement la campagne au titre de ces élections présidentielles. Donc voilà comment la procédure va se faire.
Mohamed Camara, joint à Conakry par Chérubin Dorsil.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a pressé les pays du Golfe de Guinée de coopérer pour lutter contre la piraterie et l'insécurité qui règnent dans cette région riche en hydrocarbures. C'est ce qu'ont indiqué hier ses services. Le Nigeria et Sao Tomé et Principe doivent, en compagnie des autres parties concernées, œuvrer avec plus d'ardeur afin d'en assurer la sécurité, a déclaré M. Buhari au Premier ministre Sao Tomé. Patrice Emery Trovoada en visite à Abuja, selon la présidence du Nigeria.
En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a procédé mercredi à un réaménagement de son gouvernement, marqué par le remplacement de 3 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'Intérieur.
Le Parlement non reconnu par la communauté internationale, celui qui siège à Tripoli, en Libye, a décidé de se joindre au nouveau round de négociations prévu aujourd'hui et vendredi à Genève, sous l'égide de l'ONU. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
L'émissaire spécial de l'ONU, Bernardino León, souhaitait vivement la participation du Congrès général national. Le Parlement reconnu par la communauté internationale, siégeant à Tobrouk dans l'est du pays, participe aux discussions, mais son rival, le CGN, sous la coupe de la coalition des milices Fajr Libya, les boycottait après avoir refusé de ratifier l'accord de paix et de réconciliation conclu le 11 juillet. À Genève, les discussions porteront notamment sur les noms des ministres appelés à faire partie du gouvernement d'Union nationale. Première étape en vue de mettre le pays sur la voie de la réconciliation, près de 4 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi. La Libye est actuellement minée par les rivalités politiques, les violences meurtrières et l'effondrement de son économie. L'ONU espère aboutir à un accord entre les parties vers le 20 septembre afin qu'il puisse être mis en œuvre un mois plus tard.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées hier dans 2 attentats suicides contre une mosquée chiite à Sanaa, la capitale. Les précisions de Michel Joseph.
Un homme portant une ceinture d'explosifs s'est fait exploser au milieu de fidèles qui quittaient la mosquée après la prière du crépuscule dans le quartier de Jaraf de Sanaa. Pendant que les gens se précipitaient pour aider les victimes, un second individu a fait exploser son véhicule bourré d'explosifs. Ce double attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais porte la marque du groupe État islamique. Le 21 mars, ce groupe djihadiste sunnite avait revendiqué une série d'attentats contre des mosquées chiites qui avaient fait au moins 142 morts. Sanaa, la capitale, est contrôlée par les rebelles houthis qui sont des chiites. Mais depuis fin mars, ils sont la cible de frappes aériennes d'une coalition dirigée par Riyad qui soutient le président Abd Rabo Mansour Hadi, qui a fui le pays devant la progression rebelle pour s'exiler en Arabie Saoudite.
Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est dit hier convaincu que des pays du Moyen-Orient enverront à l'avenir des soldats au sol en Syrie contre le groupe État islamique. L'hypothèse devant être discutée à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. En revanche, assure le chef de la diplomatie américaine, les troupes américaines ne font pas partie de l'équation.
Migration vers l'Europe, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitali Tchurkin, a indiqué mercredi que le Conseil de sécurité étudiait la possibilité d'adopter une résolution permettant aux Européens d'intervenir dans la crise migratoire en Méditerranée. Ce texte, s'il était adopté, ne permettrait qu'une intervention navale européenne en haute mer et non dans les eaux territoriales libyennes contre les passeurs qui incitent des centaines de milliers de migrants à risquer leur vie pour franchir la Méditerranée à partir de la Libye.
La Chambre des représentants américaine votera la semaine prochaine sur l'accord nucléaire avec l'Iran. C'est ce qu'a annoncé le chef de la majorité républicaine ici aux États-Unis. Analyse en seconde partie d'émission.
Au Texas, 2 policiers qui ont abattu un homme vendredi ont été suspendus. Une vidéo amateur les montre en train de tirer sur un homme qui avait au moins un bras en l'air. Le point avec Jean-Roger Bion.
Cette vidéo de quelques minutes a été diffusée par une chaîne locale de San Antonio dans le sud du Texas. Gilbert Flores a été abattu vendredi. Les 2 policiers, Greg Vasquez et Robert Sanchez, sont suspendus. La vidéo montre Flores torse nu, le bras droit levé au-dessus de la tête, mais le bras gauche est masqué à la caméra par un poteau. Les 2 policiers s'approchent de lui, leur échange n'est pas audible, puis il y a eu des détonations. Apparemment, les policiers étaient venus répondre à un appel relatif à des violences domestiques. Ils ont trouvé une femme et un bébé qui semblaient blessé. Selon CNN, citant un proche de l'enquête, Flores tenait un couteau lorsqu'il a été abattu. Suzanne Parmelo, shérif du comté de Bexar, a indiqué que l'homme résistait à l'arrestation. Le FBI et la police fédérale ont ouvert une enquête. Cet incident intervient après la mort de Darren Goffold, un shérif adjoint abattu de sang-froid près de Houston au Texas. Ce crime a été qualifié d'exécution par les autorités locales.
Et toujours au chapitre des violences policières aux États-Unis, un tribunal de Baltimore dans le Maryland a rejeté mercredi les recours présentés par 6 policiers poursuivis pour la mort de Freddie Gray, jeune noir, en avril dernier, un acte qui avait déclenché des émeutes dans cette ville de l'Est des États-Unis.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La publication hier de mauvais indices chinois a fait rechuter lourdement les bourses mondiales et le prix du pétrole. Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 essaieront en fin de semaine à Ankara de calmer les marchés sur fond de chaos chinois de ratés dans les pays émergents et d'angoisse monétaire. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a déjà averti que la croissance mondiale en 2015 serait probablement plus faible que prévu, soit 3,3% jusqu'ici. Au Cameroun, le consortium constitué de logisticiens français Necotrans et de Kribi Port Multi Operators, un regroupement de 9 entreprises camerounaises, a décidé d'investir un montant de 26,2 millions d'euros sur les 20 prochaines années. Selon le président de Necotrans, Gregory Carell, le nouveau investissement permettra d'augmenter les cadences de manutention et les zones de stockage pour que le port de Kribi soit le plus compétitif possible, et ce, en complémentarité avec le port de Douala. En Éthiopie, le premier ministre Haile Mariam Desalegn a ouvert officiellement à Addis Abeba, à l'hôtel Sheraton, le forum de 3 jours sur les entreprises et l'investissement en Afrique et au Japon. Objectif, soutenir le développement du secteur privé, le vice-ministre des Affaires étrangères Kazuyuki Nakane a pris part à ces cérémonies où plus d'une centaine d'entreprises japonaises sont présentes.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric. Et on enchaîne sur l'e-sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
En football, des absents notables au sein des éléphants lors de la deuxième journée.
Les Ivoiriens Wilfried Bonny de Manchester City et Max Alain Gradel de Bournemouth en Angleterre, blessés, ne disputeront pas le match de la deuxième journée des qualifications de la CAN 2017 contre la Sierra Leone dimanche prochain au Nigeria. Ces deux absences s'ajoutent à celles de Yaya Touré, capitaine des éléphants, vainqueur de la CAN 2015 et qui aurait décidé de prendre un peu de recul. Le sélectionneur Michel Dussuyer a fait appel à l'attaquant Roger Assalé qui évolue en RDC au TP Mazembe.
Peut-être un Africain pour remplacer Sepp Blatter à la tête de la FIFA.
Oui, c'est du moins ce que veut croire Segun Odegbami, 63 ans, cet ancien capitaine des Super Eagles du Nigeria et membre de la sélection championne d'Afrique des Nations en 1980. S'est lancé dans la campagne pour devenir président de la FIFA. Il n'aura pas la tâche facile puisqu'il aura en face des candidats tels que Michel Platini, président de l'UEFA, et le milliardaire sud-coréen Chung Mong-jun, un ancien vice-président de la FIFA. Le congrès extraordinaire électif doit élire le président de la FIFA le 26 février 2016.
La ville sud-africaine de Durban va accueillir les Jeux du Commonwealth.
Oui, Durban a été désigné officiellement hier à Auckland, en Nouvelle-Zélande, par la Fédération des Jeux du Commonwealth. Elle sera la première ville africaine à accueillir ces Jeux.
En cyclisme, 11e étape hier du Tour d'Espagne.
Oui, l'Espagnol Mikel Landa de l'équipe Astana a remporté hier la 11e étape du Tour d'Espagne au sommet d'Els Cortal d'Encamp en Andorre après un enchaînement de cols favorable à son équipier italien Fabio Aru, nouveau leader et fatal à Chris Froome en perdition en montagne.
Les sports, Bagassi Koura. Merci.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur la crise de l'immigration en Europe. Ces dernières semaines ont été marquées par de nouvelles tragédies humaines, de nombreux migrants venant du continent africain. Que peut et veut faire l'Europe pour régler le problème? Que pouvez-vous suggérer? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec au micro, le monde aujourd'hui, deuxième partie d'émission. Au Niger, le Bureau international du travail, le BIT, s'appuie sur les médias pour lutter contre l'esclavage traditionnel. Une pratique qui s'inscrit dans un contexte religieux. Éric Manirakiza a joué en France un consultant du BIT impliqué dans ce projet, Athanase Karayenga.
Il existe une pratique des hommes âgés surtout, qui ont atteint le quota des 4 femmes autorisées par le Coran, mais qui en plus épousent ce qu'on appelle la wahaya. C'est la 5e épouse qui sort du quota permis par le Coran de 4 femmes. Et là, la situation devient extrêmement dramatique parce qu'il faut nécessairement que cette 5e épouse soit d'ascendance esclave depuis des années, presque des siècles. Et pire que ça, la 5e épouse, généralement, c'est des gamines de 10, 11, 12 ans qui sont capturées à l'insu de leur famille. Et puis, ces enfants grandissent sans jamais plus revoir leur famille d'origine. Elles deviennent l'esclave de toutes les 4 femmes légales et peuvent donner naissance à des enfants. Et ces enfants sont à leur tour esclaves. Et ainsi la chaîne se reproduit. Les esclaves reproduisent les esclaves.
Vous formez donc des journalistes pour informer correctement dans le but de juguler cette forme d'esclavage. Y a-t-il des résultats jusque-là ?
C'est une tradition qui existe depuis des siècles et c'est une tradition qui est adossée sur une fausse interprétation du Coran parce que dans la communauté des musulmans, tout croyant doit être libre et la plupart de ces enfants qui sont capturés, qui deviennent des femmes esclaves, elles sont musulmanes et donc il est absurde de maintenir en esclavage une autre musulmane. Alors le premier résultat qu'on perçoit aujourd'hui, c'est d'abord la lutte de la société civile nigérienne. Il y a des chefs traditionnels, il y a des chefs religieux, il y a des associations. Le Niger est un des pays les plus avancés en matière de lutte contre l'esclavage traditionnel. Ce que nous faisons avec les journalistes, c'est de faire la promotion de tous ces instruments pour que l'opinion publique se rende compte que le prétexte de la religion ne vaut pas. Le prétexte d'une tradition qui est acceptée par la société ne vaut pas. L'esclavage, c'est un crime.
Dans cette crise, il y a aussi du trafic humain dedans. Une affaire de 150 milliards de dollars dans le business.
Il n'y a pas un continent qui est à l'abri de cette tragédie. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 21 millions de personnes dans le monde qui sont pris dans le piège du travail forcé. Il y a un flux énorme d'entrepreneurs du crime qui capturent des personnes, qui les font travailler, qui gagnent beaucoup d'argent. Le BIT estime effectivement qu'il y a des milliards de dollars.
Athanase Karayenga, joint en France par Éric Manirakiza. Et nous enchaînons sur cette visite du président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, au Niger. Une visite à l'occasion de laquelle il a rencontré son homologue à Niamey. Le reportage d'Abdoul Razak Idrissa.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a indiqué être venu à Niamey après Alger pour témoigner de la reconnaissance du peuple malien à ses deux pays voisins dans le cadre de la pacification de son pays. L'occupation récente de la localité d'Anéfis par le groupe de miliciens favorables au gouvernement de Bamako dans le nord du pays, quelques semaines seulement après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés, s'est naturellement invité dans les discussions entre Ibrahim Boubacar Keïta et son hôte Issoufou Mahamadou. Pour le président malien, il n'y a plus de cas en effet puisque le groupe de miliciens a été sommé de quitter la localité et cela sera Ibrahim Boubacar Keïta.
Un accord de paix n'a pas que des amis, n'est pas d'application immédiate efficace. Il y a forcément des perturbations, il y a des petits sursauts et cela ne nous enlève pas notre sérénité. Ceux qui ont indûment occupé en effet après la signature de l'accord de paix ont été priés d'évacuer en effet sans condition. Et cela sera. Mes visites en Algérie et au Niger s'inscrivent dans le cadre de reconnaissance particulière à ces deux pays qui ont été à nos côtés de fort belle façon.
Pour le président nigérien, le cas d'Anéfis est une belle occasion pour mettre en œuvre l'accord de paix d'Alger, Issoufou Mahamadou.
La solution au problème d'Anéfis se trouve dans la mise en œuvre rapide de cet accord de paix. J'ai noté au cours des entretiens que j'ai eus avec le président une forte volonté de l'État malien à mettre en œuvre ces accords. Cela montre bien sa forte volonté à combattre tout ce qui peut mettre en péril l'accord de paix. Déjà, le comité de suivi devrait se réunir le 24 août dernier. Malheureusement, ce qui s'est passé à Anéfis a un peu compromis cette réunion. Mais Anéfis, justement, doit être l'occasion d'accélérer la marche. Nous fondons beaucoup d'espoir à cette mise en œuvre de cet accord-là.
Les deux chefs d'État ont également évoqué des questions bilatérales. La coopération entre le Niger et le Mali se porte en effet très bien, à la grande satisfaction du président Ibrahim Boubacar Keïta qui quitte Niamey ce jeudi matin. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le film « L'homme qui répare les femmes » du réalisateur belge Thierry Michel est interdit de diffusion en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises considèrent le documentaire injurieux à l'endroit des forces armées de leur pays, a déclaré à VOA Afrique le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Co-réalisé avec la journaliste du Monde, Colette Brackman, le film qui parle du docteur Denis Mukwege, le médecin plusieurs fois primé pour ses chirurgies visant à sauver les victimes d'atrocités sexuelles, reprend entre autres des témoignages des femmes violées. Eddy Sango a joint pour nous en parler le co-auteur du film, Thierry Michel.
On est donc très surpris tout d'un coup de ce revirement qui fait que ce film attendu et programmé à Kinshasa, mais aussi au Kivu et dans la province orientale, ne pourra pas être présenté publiquement. Je n'ai pas eu Lambert Mende, mais j'ai lu ses interventions dans la presse et je sais ce qu'il a dit à Colette Brackman. Pour lui, ce film calomniait l'armée congolaise et donnait une mauvaise image de cette armée parce que des témoins, j'imagine dans le film, disent avoir été violés par des militaires.
J'ai eu le ministre avant vous, il m'a confirmé ce que vous dites, mais il a refusé de parler dans une interview. Donc il dit que ce film constitue une calomnie de l'armée congolaise, en fait.
Je m'en étonne parce que deux choses. Ce film, d'abord, a été fait de manière extrêmement objective, journalistique et professionnelle, avec Colette Brackman, en cherchant des témoignages parfaitement fiables, des témoignages qui avaient déjà été, pour la plupart, répertoriés par les Nations Unies, qui sont repris d'ailleurs dans le fameux rapport mapping fait par les experts des Nations Unies, qui a répertorié 617 cas d'incidents violents avec des possibilités de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises en RDC. Et nous avons donné la parole au docteur Mukwege.
Vous parlez justement de docteur Mukwege, mais juste après avoir reçu les prix Sakharov, on a vu dans la presse internationale ou même dans la presse congolaise qu'il était présenté comme un éventuel candidat à la présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit pour cette raison que les autorités congolaises aient bloqué votre film?
Je suis un petit peu surpris et même un peu choqué qu'on interdise un film qui rend hommage à cet homme, célébré unanimement par la communauté internationale pour son dévouement, son courage, son abnégation dans sa mission de réparer les femmes victimes de viol. Il est un des témoins privilégiés, parfois un porte-parole. Maintenant, je peux vous dire que le docteur n'a jamais dit qu'il était candidat. Ça a été dit à son insu et je crains que ça ait été dit de manière malveillante pour lui nuire, sachant qu'à partir du moment où la rumeur circulait qu'il pouvait être un candidat et donc un rival éventuel du président actuel, c'était une manière de le mettre en danger. Lui ne s'est jamais porté candidat à aucune fonction politique jusqu'ici. Mais je confirme bien, c'est son droit, comme le droit de tout citoyen congolais.
Thierry Michel, co-réalisateur du film « L'homme qui répare les femmes », joint à Bruxelles.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Un appui décisif lui a été apporté hier par la sénatrice Mukulski du Maryland, qui a rejoint 33 autres sénateurs, soit plus d'un tiers en faveur de l'accord. Les deux chambres du Congrès ont jusqu'au 17 septembre pour se prononcer sur ce dossier du nucléaire iranien. Timothée Donong-Mai a joint le professeur James César de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Normalement, il faut avoir deux tiers du Sénat pour un accord. C'est la loi qui gouverne un traité. On dit dans ce cas, ce n'est pas un traité, c'est quelque chose d'autre. C'est une négociation. C'était la position du président. Donc, dans ce cas-là, l'obligation est pour le Congrès de désapprouver. Et pour désapprouver, alors, il faut d'abord une majorité. Là, les républicains ont une majorité. Et puis, si le président pose un veto, le président n'a besoin que d'un tiers des sénateurs. Il y a un tiers maintenant des sénateurs, 34 pour le moment, c'est-à-dire il a perdu la majorité du Sénat, mais il a le nombre nécessaire pour bloquer un vote de désapprobation. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, il gagne avec une minorité d'un tiers.
D'où vient la difficulté à mobiliser les législateurs en faveur de cet accord?
D'abord, le Parti républicain est contre. La majorité des Américains, selon les sondages, sont contre. Donc, ce n'est pas un accord populaire pour le moment.
Le président Obama a de son côté averti que si cet accord échoue, il sera difficile, sinon impossible, d'en avoir un autre.
C'est une partie de son argument, oui. C'est ça, en effet. Parce qu'il a négocié non seulement pour les États-Unis, mais pour les cinq autres pays. Dans ce sens-là, l'Amérique, s'il disait non, était isolée. Et le président parle beaucoup de ça maintenant. Il dit que c'est un bon accord. Mais il dit quand même que même si ce n'est pas un bon accord, les autres vont le faire quand même. Mais comme je disais, la plus grande partie des Américains pour le moment croient que c'est une mauvaise idée.
Voilà, c'était le professeur James César de l'Université de Virginie à Charlottesville qui parlait donc de l'accord sur le nucléaire iranien, puisque Barack Obama a désormais suffisamment de soutien au Congrès pour surmonter tout blocage par la majorité républicaine. En Europe, de plus en plus de voix s'élèvent contre la manière de faire face aux plus grands flux migratoires depuis la Seconde Guerre mondiale. Certains Européens estiment que construire des murs ou adopter des lois répressives ne saurait être la réponse. À Calais, grand port dans le nord de la France, une école particulière ouvre ses portes aux migrants. Un reportage de Lisa Bryant, rendu par Lionel Gaillet.
Le weather, le temps. Voilà, ça peut être le temps qui passe et ça peut être aussi le temps qu'il fait. La pluie. The rain, la pluie.
Leçon de français à l'école du chemin des dunes, ses élèves apprennent des mots sur le temps, la pluie, le vent.
La neige.
Et la neige que beaucoup de ces migrants soudanais ou érythréens verront bientôt pour la première fois de leur vie.
Vous avez déjà vu la neige?
You can read here.
Did you already see the snow?
Ils sont là pour apprendre l'art, le tai chi et surtout le français et l'anglais, deux langues qui pourront les aider dans leur quête d'un statut légal en France ou en Grande-Bretagne, juste de l'autre côté de la Manche. Zimako Jones, un migrant nigérian, a fondé cette école pour les diverses communautés des migrants à Calais.
Maybe you saw this Kosovar.
Vous aurez peut-être remarqué le Kosovar. Il vient à l'école pour s'asseoir avec des Noirs du Soudan, parfois deux ou trois Afghans. C'est un plaisir pour moi de les voir vivre ensemble, être ensemble.
Voici Mohamed, venu du Pakistan et est arrivé à Calais il y a 6 semaines. Il espère trouver du travail en France. Ce sont les migrants qui lui ont parlé de l'école.
Ils m'ont dit, si tu veux apprendre la langue française, il y a une école dans la jungle et c'est gratuit. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici pour apprendre à parler français.
Pendant que certains habitants de Calais organisent des manifs contre la présence des migrants, le rang des enseignants ne cesse de grossir. Tous sont des volontaires, comme Virginie Thiberguien, qui habitent la zone.
Je les vois souvent sur les routes et je voulais les rencontrer, savoir comment ils vivent ici. L'école est un moyen pour restaurer l'humanité, c'est donc une bonne chose.
Les volontaires viennent aussi de Grande-Bretagne. Niamh McMahon, professeur de sciences à Kent, a traversé la Manche à bord d'un ferry avec des habits, de la nourriture et du matériel scolaire pour les migrants. Elle a appris l'existence de cette école sur Facebook.
J'ai été très émue d'apprendre ce qui se passe ici, comment les gens sont traités. Ils sont désespérés, ils fuient la guerre, la torture et la souffrance qui sont, dans la plupart des cas, causées par les politiques de l'Occident. Et je voulais voir ce que je pouvais faire.
Le fondateur Zimako Jones veut même ouvrir une autre classe pour les femmes et les enfants. Pour lui, cette école prouve que les migrants peuvent créer quelque chose de positif dans la jungle de Calais et que l'Europe et ses migrants peuvent bâtir ensemble un avenir.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Excellente journée à tous.